sur Moment 3.
Au Kasaï occidental, la réinsertion des enfants en culture familiale pose énormément de problèmes. Bon nombre de ces enfants ont des difficultés de réinsertion causées soit par des parents ou la communauté, soit également par l'enfant lui-même. C'est le cas du Bureau international catholique de l'enfance où environ 6 enfants sur 10 sont dans cette situation. Nous en parlons avec André Kambala qui est d'ailleurs en ligne. André, bonjour.
Bonjour, Gilles. Bonjour.
Alors, comment s'est fait la réinsertion à Kananga?
Oui, selon les encadreurs, les enfants passent d'abord par l'écoute, un moment qui permet à l'encadreur de cerner le problème de l'enfant. Après vient la recherche de la famille, puis la réunification familiale. Mais c'est lors de la réunification familiale qu'on se pose le grand problème, comme l'explique Tchalao du Bureau international catholique de l'enfance.
La grande difficulté, c'est que dans la plupart des temps, les parents n'ont pas eux-mêmes de domicile fixe. Soit l'enfant est en rupture depuis plusieurs années, toutes les traces de famille sont déjà vraiment parties, effacées. Et ça nous demande vraiment un grand temps pour que nous puissions arriver soit à chercher une autre famille d'accueil ou carrément laisser l'enfant vivre dans une dans les milieux d'autonomie.
Souvent, est-ce que les parents sont prêts à accueillir les enfants?
Oh là 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 là, avec les phénomènes enfants dissociés, généralement ils ne sont pas prêts. Parce qu'ils pensent que c'est leur porte-malheur. Soit ils sont vraiment prêts à le recevoir, mais malheureusement, ils ne peuvent pas subvenir aux premiers besoins, la nourriture, le logement, ainsi que les soins médicaux. Ça pose toujours des grands problèmes, surtout avec les difficultés économiques que le pays est en train de traverser pour le moment. En tout cas, c'est très difficile. Et puis même nous-mêmes, à notre niveau, parfois on a du mal à les loger tous. Hein. Imaginez-vous, nous avons un centre pour une capacité d'accueil de 60 enfants. Mais après, vous vous retrouvez avec 100 enfants. Où les placer dans ces vraiment très difficile pour nous.
Alors pour les enfants qui sont envoyés dans les centres de transit, comment se poursuit les processus de réinsertion?
À ce niveau-là, JR, c'est une autre situation. Les enfants suivent un programme psychosocial et apprennent de métier. La difficulté, c'est le moment où l'enfant doit retourner en famille. Ici, je vous fais le témoignage de Josaphat Silanda, qui est responsable du centre de transit du BICE, appelé Boupolé à Toubouloukoua, aux environs de 12 km de la ville de Kananga.
Les plus âgés sont placés dans la préparation professionnelle. Donc, ils vont apprendre des métiers, comme par exemple la menuiserie, la maçonnerie. Nous avons le petit travail de dépannage mécanique. Nous avons la boulangerie et la couture. Mais pas les moins âgés, eux, sont orientés vers l'alphabétisation. Et peut-être, ils ont un point commun qui est l'alphabétisation, c'est pour tout le monde, et aussi l'élevage et la culture. Mais la grande difficulté que nous avons, c'est la peur, la crainte de retour en famille. Il y a des enfants qui sont taxés sorciers par leurs parents, mais lui demander dans moins de 3 mois de retourner et de changer son comportement. Le temps et cette peur-là nous causent beaucoup de problèmes, mais dans l'ensemble, le travail porte des fruits parce que beaucoup d'enfants qui sont passés par nous vivent maintenant acceptés dans la famille.
Donc je peux dire, la grande difficulté, c'est les parents d'accepter l'enfant ou bien c'est l'enfant lui-même de s'accepter dans la famille, de retourner dans sa famille?
Les deux. Donc il y a d'abord l'enfant qui a peur de retourner dans sa famille, parce qu'il a été taxé de sorcier, et des fois, il a souffert la pauvreté des parents aussi. Au centre, peut-être, il mange relativement bien. Par contre, en famille, il doit attendre 23 heures pour manger. Bah, ça pose déjà un problème. Et les parents aussi, de leur côté, ils pensent que l'enfant était porte-malheur pour eux. Peut-être un parent qui a perdu son travail, il met tout sur le dos de l'enfant, et pour l'accepter, son travail. Et cette fois-là, nous avons aussi un autre volet, la voleur insertion. Il y a nos amis qui s'en occupent, qui travaillent dans la médiation pour que cette famille arrive tout à accepter l'enfant, et que l'enfant aussi accepte de vivre dans les conditions qui sont les leurs.
Alors, face à ces difficultés, quelles sont les pistes de solution, André Kambala?
Jean-Longembo, la seule grande arme, c'est la sensibilisation des parents et de surcroît la sensibilisation de la communauté. À part la sensibilisation pour une prise de conscience, les structures de protection de l'enfant préconisent aussi que l'État puisse améliorer sa politique de l'emploi. Ici, je veux dire que l'État fasse un effort pour promouvoir les coopératives et l'octroi des mini-crédits. Parce qu'en grande partie, c'est la pauvreté qui est la cause principale du phénomène enfant en rupture familiale. D'un autre côté, JR, ces structures de protection de l'enfant souhaitent que la loi soit plus rigoureuse en l'encontre de parents qui abandonnent leurs enfants avec le phénomène des enfants dissociés. En fin de compte, JR, que le gouvernement crée de cadres pour le divertissement des enfants, comme de parcs d'attractions, des cinémas pour enfants, et cela de connivence avec le partenaire du domaine de la protection de l'enfance.
Voilà, nous allons accorder la parole à notre invité, Fortuna Ntumba, ministre provincial en charge des affaires sociales, ainsi qu'à Pierre Tchilengue, coordonnateur provincial du BICE. Avec vous, André Kambala, on s'arrête là, à moins que vous ayez un autre élément à ajouter dans ce dossier.
Oui, en fait, pas tellement d'éléments ajoutés, mais c'est tout à fait difficile de comprendre que cette situation perdure. Il y a beaucoup d'engagement au niveau, comme vous l'avez constaté, au niveau des structures, mais c'est ici vraiment la charge, la grande poire, la grande responsabilité, c'est au niveau du gouvernement, que le gouvernement fasse un effort vraiment. Parce que beaucoup d'enfants en rupture, dans toutes les villes, vous remarquez qu'il y a beaucoup d'enfants en rupture des liens familiales, et c'est un phénomène qui perdure. Alors la balle est lancée dans les camps de l'État. C'est ça une personne que je voulais ajouter.
Merci André et à la prochaine.
Merci JR.
Sokina Litino, Tapé, Akimba, Ambiance à Gogo, Kolukakoe Banyoso, Tomouvé, Masta, Ndoule, Informatique, Okokalisanani,
Belenge Moko ya RDC,
Okokalisanini Lissousou,
Okapisa ya Radio Kapi,
Linata ya Batu ya Mistala ya Maboko, Bayekoli, ya Mindoule, ya Batu Balinga Koe ba Technologie ya Sika Omolongo, Pema Tatoli ya Bilenge, Okapi Jeune, Pona Bokutani, Kosolola, Kobina, Kokabola, Peko Yekola Mambi Masika, Kobanda Mokolo ya Mosala Moko, Kino Mokolo ya Mosala Mitano, Ngonga ya Misato, Kino Ngonga ya Mitano, Sima ya Nzanga, Ngonga ya Kinshasa, Pe Ngonga ya Minei, Kino Ngonga ya Motoba, Sima ya Nzanga, Ngonga ya Moniele, Eko Ningana, Ololaka ya Radio Okapi.
Voilà, nous avons déjà en ligne Pierre Tchilengue, coordonnateur provincial du BICE, qui est avec nous. Monsieur le coordonnateur, bonjour.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, BICE est en train de battre un travail de titan en ce qui concerne la réinsertion des enfants en rupture familiale dans la partie, à Kananga, et tout particulièrement au Kasaï occidental. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, la réinsertion s'est fait correctement?
Le travail s'est fait. Non sans difficulté dans la mesure où parmi les enfants en rupture familiale, il y a d'abord plusieurs catégories d'enfants. Il y a des enfants qui ont des maladies, qui sont jugés par exemple honteuses comme l'épilepsie. Il y a des enfants qui ont des problèmes d'handicap sur le plan mental. Il y a des enfants qui sont oligophrènes, c'est-à-dire munis de peu de capacités sur le plan mental, mais que les parents relèguent et trouvent peut-être qu'ils font la honte de la famille. Il y a des enfants caractériels, les enfants qui posent des petits problèmes d'adaptation au niveau de la famille par rapport aux normes morales. Il y a également des enfants fugues, les enfants qui fuient la famille à la préadolescence pour peut-être chercher à trouver des exutoires et peut-être de une vie meilleure en dehors de la vie familiale, puisque le barème affectif leur proposé par la famille n'est pas conforme. Il y a des enfants qui ont des problèmes qui sont culpabilisés par les parents, soit des gens qui sont dits sorciers. Alors, maintenant, par catégorie d'enfants, nous travaillons non sans difficulté. Des fois, nous travaillons avec la difficulté due à la résistance des parents. Et il y a des parents qui refusent carrément de recevoir les enfants parce qu'ils considèrent que ces enfants ont des problèmes, ont déjà entraîné la mort de l'un ou l'autre, ils sont à la base de la mort de l'un ou l'autre membre de famille. Et même la résistance des enfants, dans la mesure où les enfants considèrent qu'ils n'ont pas été sincèrement pardonnés par leurs parents et ils résistent de rentrer en famille. Alors, il y a aussi des difficultés, nous opérons sur Kananga, mais des fois, nous avons des difficultés parce qu'il y a des enfants dont les familles se retrouvent à l'intérieur de la province. Et il faut les atteindre. Or, pour arriver à réinsérer un enfant, il faut... Allô?
Oui, on vous prie, allez-y. Allez-y, M. Pierre.
Alors, il faut se rassurer que les parents sont touchés, les traces, les véritables traces des familles sont retouchées et que l'on a fait un travail de cure mixte, c'est-à-dire, on a curé non seulement, on a traité les parents, c'est-à-dire, on a dissipé les craintes, on a dissipé les stéréotypes et les préjugés négatifs sur l'enfant. pour être sûr que l'enfant va rentrer dans un environnement qui est quasi protecteur. À part cette difficulté, à cela est liée la difficulté liée au transport, puisque lorsqu'il faudrait que l'enfant soit inséré en famille, il faudrait avoir fait la lecture de l'environnement familial pour trouver que l'enfant se réinsère dans un environnement où on l'attend effectivement, où les lits se trouvent, où les fils et une natte se retrouvent, comme nous l'avions dit autrefois. Il y a le mensonge d'enfant. Lorsque l'enfant se retrouve dans la rue, il a peut-être changé l'identité, c'est-à-dire c'est une forme de négation. Il ne veut plus retrouver la situation de la famille. L'enfant renie et donne une fausse identité. Il renie son parent et il donne un autre nom à ses parents. Il se donne lui-même un autre nom. Et lorsqu'on fait ce travail, c'est un peu difficile de retrouver, par exemple, le parent propre alors que l'enfant vous donne une fausse identité. Le processus de médiation peut échouer. C'est-à-dire qu'on peut travailler, négocier avec les parents pour qu'ils acceptent le retour de l'enfant en famille, mais cela peut déboucher pas sur un échec. Et lorsqu'il y a un échec, il faudrait trouver d'autres alternatives, c'est-à-dire la possibilité de taper l'enfant en milieu autonome de vie, ou alors trouver une famille d'accueil. Mais dans le contexte économique actuel, il n'est pas facile de trouver une famille d'accueil. Il y a des pasteurs qui se disposent à recevoir des enfants, mais compte tenu du contexte
économique, monsieur le coordonnateur,
c'est pas toujours facile. On trouve que c'est une charge de plus.
Oui, monsieur le coordonnateur.
Il y a des parents qui trouvent qu'amener un enfant dissocié en famille, il risque d'envenimer tous les autres enfants.
Oui, monsieur le coordonnateur.
Ça pose un peu de problème, mais
s'il vous plaît, monsieur le coordonnateur,
il faudrait que l'enfant ait une certaine capacité d'autogestion, une certaine sagesse pour pouvoir gérer ce moyen que l'on fait.
Monsieur Pierre Tilingué, est-ce qu'on peut s'écouter, parce que là, il y a beaucoup de questions que nous aimerions bien vous poser. Hein. On comprend que voilà, donc vous éprouvez d'énormes difficultés en ce qui concerne la réinsertion des enfants en rupture familiale. Mais est-ce que vous pouvez nous faire une idée sur les taux d'enfants en rupture familiale dans cette partie du pays, à Kananga? Ils sont au nombre de combien, ces enfants? Est-ce que vous avez déjà eu à mener des enquêtes autour de ça?
Bon, du moins, on peut vous signaler la fréquence. Il y a au moins un enfant et demi qui descend de la rue pour tous les trois jours pratiquement. Au fur et à mesure que la pauvreté atteint un paroxysme insupportable, les enfants se jettent. Et nous travaillons même à l'heure actuelle dans la prévention de la chute des enfants dans la rue. Puisque de plus en plus les parents deviennent pauvres et ils sont incapables de prendre en charge les enfants. Et de plus en plus les enfants descendent dans la rue. Ils ont déjà l'information que dans la rue, il y a des ONG, il y a des organismes qui prennent en charge les enfants, ils leur procurent un barème non seulement socio-affectif, mais aussi économique viable, et les enfants descendent de plus en plus dans la rue.
Mais alors, en quoi consiste concrètement cette prévention du phénomène enfants en rupture familiale?
Oui, nous travaillons en sensibilisant les parents pour qu'ils puissent non seulement arriver à accepter leurs charges et faire accepter à leurs enfants leurs conditions, mais aussi nous travaillons dans la consolidation des foyers. Beaucoup d'enfants ont un arrière-plan socio-familial qui dénote les divorces, la polygamie mal gérée, la dislocation de familles et les familles recomposées. Alors, nous travaillons dans la sensibilisation, il n'y a pas que nous, mais il y a également d'autres émissions qui sont à la radio que nous jugeons positives dans la mesure où elles travaillent pour la consolidation des foyers. Chaque fois que les foyers sont disloqués, chaque fois que les papas ou l'autorité n'est pas bien gérée au niveau de la famille, les enfants prennent leurs décisions et choisissent leur modèle de vie et qui ne peut ne pas être les parents. Et cette fois-là, on se retrouve toujours devant le phénomène enfant de la rue.
Alors, une question de curiosité, la prise en charge psychosociale est-elle totale ou elle est faite partiellement?
À la prise en charge holistique au niveau de la DIC, au niveau du DIC, la prise en charge est tout à fait holistique, mais il se pose le problème du nombre d'agents qu'il faut déployer, non seulement pour travailler dans la consolidation des foyers, dans la cure mixte, c'est-à-dire travailler avec, à la fois avec les parents et travailler, faire un travail de fond sur les enfants au niveau du centre. nous avons toujours déployé non seulement les chargés de la réinsertion socio-économique et les chargés des services sociaux, c'est-à-dire enquête sociale et réinsertion familiale. Et ce sont ceux-là qui à la fois travaillent dans la médiation et dans la consolidation des foyers. En même temps que nous avons des émissions animées, nous avons des espaces médiatiques qui nous permettent non seulement de sensibiliser les parents pour que le foyer soit solide, et en même temps, nous travaillons également au niveau des familles en contact direct avec les parents pour les sensibiliser à pouvoir garder les familles solides, à garder l'unité au sein des foyers et l'unité philosophique aussi, de façon que les parents se sentent dans un environnement purement protecteur. Le plaidoyer se fait également au niveau de l'État qui devrait effectivement déployer des efforts pour pouvoir travailler dans la consolidation des foyers et procurer aux familles un minimum de niveau de vie, puisque dans l'ensemble, nous trouvons que ce sont les agents de l'ordre, ce sont les fonctionnaires de l'État et certains débrouillards qui ont souvent des familles fendues. Et ça, c'est soit dit entre nous. Et c'est la difficulté que nous rencontrons, puisque la pauvreté est le socle de tous ces problèmes.
Oui, ben on a comme l'impression que BICE travaille, disons, fait cavalier seul. Vous n'avez pas de partenaire, vous n'avez pas d'autres ONG qui vous épaulent parfois dans cette démarche?
À chaque palier, à chaque niveau, nous avons des partenaires, entre autres l'UNICEF. L'UNICEF qui collabore dans l'appui sur place des enfants, soit dans les activités de réinsertion, soit dans l'appui alimentaire ou vestimentaire, ou même l'appui au niveau de la literie. Mais nous avons également la MONUC qui nous aide au niveau des transports, puisque lorsque un enfant est réinséré en dehors de la province, nous faisons recours à la MONUC, nous demandons un appui logistique de la MONUC qui nous appuie soit par ces avions, nous utilisons parfois, par moment, ces avions pour pouvoir retourner les enfants dans leur famille en dehors de la province du Kassai occidental. À part cela, nous travaillons avec les partenaires, les agences de protection de l'enfant qui existent sur place. Et nous échangeons des informations. En même temps, nous travaillons sur les études de cas. Il nous arrive parfois d'aborder la grande problématique de la réinsertion, parce que la réinsertion durable des mères est une problématique qui fait l'objet de plusieurs expertises. Il faudrait que plusieurs expertises se réunissent pour pouvoir trouver les voies et moyens afin de parer au problème de la divagation des enfants dans la rue. Alors, nous avons plusieurs partenaires sur place.
Oui, toute cette synergie avec plusieurs partenaires donne-t-elle des résultats quand même escomptés, hein? Autrement dit, ça a quand même permis la réduction du taux des enfants en rupture familiale.
Oui, nous n'aurons pas la prétention de dire que nous avons effectivement réduit le nombre, puisqu'il y a encore, en plus des enfants, les différents intervenants à une époque donnée, à un point donné de l'histoire de la situation d'enfants de la rue, il y a encore les maîtres à penser. Et les différents pensent à trouver la solution au problème des maîtres à penser, qui non seulement n'apparaissent plus dans la rue, mais sont marqués quelque part, mais ils sont commanditaires des grands actes que posent les tout petits au niveau de la rue. C'est pourquoi nous avons organisé ça et là des chantiers pour pouvoir résorber et prendre en charge les maîtres à penser qui sont des adultes qui ne font rien, mais qui ne peuvent plus apparaître dans la rue comme des chèques, permettez le terme, mais qui travaillent également et qui commanditent les actes. Et c'est toute une chaîne, et il y a même des grandes personnes qui travaillent en collaboration avec la jeunesse que nous appelons aujourd'hui les chèques, mais nos enquêtes et nos études continuent à être menées, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus.
Alors si on peut savoir ce qui reste à faire, qu'est-ce que vous nous direz concrètement?
Allô?
Qu'est-ce qui reste à faire encore dans cette lutte contre ces phénomènes enfants en rupture familiale? Dans le cas de BIC, qu'est-ce qui reste encore à faire?
Non, il y a encore les grands plaidoyers qu'il faudrait au niveau de l'État, puisque tout se tient dans notre pays. Il y a la pauvreté, ce n'est pas le BIC qui va s'ériger en banque mondiale ou en fonds monétaire international pour pouvoir combattre la pauvreté, mais cela revient à la responsabilité de la République démocratique du Congo à pouvoir garantir un salaire, à pouvoir garantir le minimum des paniers de la ménagère, puisque parmi les parents, il y a des parents qui travaillent effectivement, mais qui sont mal rémunérés. il y a la police, la brigade spéciale pour la protection d'enfants qui doit pouvoir travailler, puisque il y a des enfants qui à peine tombent dans la rue et qui ont besoin juste d'une petite, on va présenter pas de la répression, mais juste d'une petite discipline pour qu'ils rentrent en famille. Il y a la République démocratique du Congo a beaucoup à faire dans la mesure où on doit non seulement ouvrir les écoles par catégorie d'intelligence, mais aussi ouvrir des centres de protection, des centres de récupération pour les enfants. Et nous continuons notre plaidoyer auprès de la République démocratique du Congo, auprès des décideurs, vous comprenez, qu'il faudrait que les décideurs arrivent à organiser aussi des structures d'encadrement pour, puisqu'il y a des enfants qui n'ont pas où aller, les orphelins vulnérables. Qui n'ont pas où aller, parce que, après la mort des parents, par exemple, les enfants se sont retrouvés entre les mains d'un grand-père qui est mort et ses enfants se retrouvent sans asile. Et ça, c'est la République démocratique du Congo, ça, c'est l'État qui doit pouvoir organiser des centres de récupération et des services sociaux pour pouvoir récupérer les enfants. Ensuite, les centres sociaux qui ont aussi des services de récupération sur le plan professionnel doivent exister pour la formation professionnelle des enfants, en même temps que l'enseignement primaire et secondaire ne doit pas seulement avoir des cycles, les cycles maternels et les trois cycles maternels, primaire et secondaire, mais il faudrait qu'au niveau de l'école secondaire, il y ait aussi des paliers. Un enfant qui a terminé l'école secondaire, l'école primaire, comment peut-il devenir être utile à lui-même? Il faudrait qu'il y ait une structure, il y ait un cycle qui récupère les enfants et les rend utiles à partir de 6 ans primaire. Par exemple, les enfants qui peuvent faire 2 ans, et à partir de 2 ans d'école, 2 ans d'études, à poste primaire, ils peuvent déjà être utiles, par exemple, à quoi que ce soit. Les services d'orientation scolaire et professionnelle qui devraient exister dans les écoles, ces services n'existent pas. Donc, il reste beaucoup de choses au niveau de la République démocratique du Congo, au niveau de l'État, à pouvoir résorber les besoins
des
enfants.
Pierre Tchilingué, nous rappelons encore, vous êtes un coordonnateur provincial du BICE. Merci d'avoir été des nôtres et surtout merci de nous avoir apporté tout cet éclairage. À très bientôt.
Merci.